Chapitre 10. La construction européenne entre élargissement, approfondissement et remise en question. Cours 1. Une Europe qui s'élargit et se réforme depuis les années 1990. Comment l'UE cherche-t-elle à concilier élargissement et approfondissement depuis les années 1990? A. La construction européenne. 1. Un fonctionnement en débat. Avec les traités de Rome, 1957, la construction européenne s'oriente vers une intégration économique. La Communauté économique européenne, CE, vise à réaliser un marché commun avec libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Depuis ses débuts, la construction européenne est marquée par le débat entre partisans d'une Europe des États et partisans d'une Europe supranationale. Les institutions de la CE établissent un compromis entre ces deux conceptions. Le Conseil des ministres incarne les intérêts des États et prend les décisions à l'unanimité ou à la majorité qualifiée. La Commission incarne la logique supranationale. Elle fait des propositions législatives au Conseil des ministres et veille à l'application des traités et des décisions du Conseil. Le Parlement, élu depuis 1979 au suffrage universel, a un rôle essentiellement consultatif. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, créé en 1974, définit les priorités de la construction européenne et accroît le poids des États. 2. La relance de l'Acte unique européen, 1986. Face aux difficultés économiques des années 1970-1980, les États tendent à se replier sur eux-mêmes et l'on assiste à une vague d'euroscepticisme. En 1986, le président de la Commission, Jacques Delors, entreprend une relance de la construction européenne avec l'Acte unique européen. Il prévoit la mise en place d'un marché unique pour 1993. La France et le Royaume-Uni signent le traité de Canterbury en 1986, qui prévoit la construction du tunnel sous la Manche. Cette réalisation concrète participe à une plus grande intégration européenne. Le tunnel est inauguré en 1994. B. La naissance de l'Union européenne, 1992. 1. Le traité de Maastricht vers une union politique et économique. Le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, crée l'Union européenne, UE, et lui donne une dimension politique inédite. Il regroupe trois piliers. Le premier est le pilier communautaire, centré sur l'établissement du marché unique et la création de l'union économique et monétaire. Il concerne les domaines qui font l'objet d'un transfert de souveraineté au profit des institutions européennes. Par exemple, la monnaie ne sera plus nationale. Le deuxième pilier institue la politique étrangère et de sécurité commune, PESC, et le troisième, une coopération policière et judiciaire. Ces deux derniers piliers prévoient des procédures de coopération sans transfert de souveraineté. Le traité renforce les prérogatives du Parlement, notamment en matière législative. 2. Un renforcement des liens dans les domaines économiques et monétaires. L'Union économique et monétaire prévoit une coordination des politiques économiques et budgétaires des États membres, ainsi que l'adoption d'une monnaie unique. Le traité fixe des critères de convergence à respecter pour pouvoir adopter le futur euro. En 1999, il entre en vigueur dans 11 pays. En 2002, les pièces et les billets sont mis en circulation. Avec l'euro, les États abandonnent un attribut emblématique de leur souveraineté nationale, la monnaie. La politique monétaire est transférée à la Banque Centrale Européenne, BCE, créée en 1998. Cet approfondissement de la construction européenne ne se fait pas sans résistance. En France, le traité de Maastricht est accepté de justesse par référendum. Au Danemark, la population doit revoter à la suite d'un premier refus. Tout comme les Britanniques, les Danois obtiennent de rester à l'écart de l'euro. C. Concilier élargissement et approfondissement. 1. Une extension sans précédent. La fin de la guerre froide marque un tournant pour la construction européenne, qui peut désormais s'étendre à l'ensemble du continent. En 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande adhèrent à l'UE. L'élargissement suivant est plus compliqué et concerne en grande partie d'anciens pays communistes. L'UE accueille 10 nouveaux États en 2004, puis en 2007, la Bulgarie et la Roumanie, et enfin la Croatie en 2013. Certains craignent que ces élargissements ne nuisent à l'approfondissement de l'UE et à son fonctionnement institutionnel. L'efficacité semblerait exiger une Europe supranationale. Mais l'attachement à la souveraineté nationale reste grand, tant dans les pays d'Europe qui viennent de se libérer de la tutelle soviétique qu'en Europe occidentale. 2. La nécessaire adaptation des institutions. Les traités d'Amsterdam, 1997, et de Nice, 2001, tentent d'améliorer le fonctionnement de l'UE mais s'avèrent insuffisants. L'UE met alors en chantier un projet de constitution que la France et les Pays-Bas rejettent par référendum en 2005. Pour sortir de l'impasse en 2007, l'UE adopte le traité de Lisbonne. Il renforce le rôle des parlements nationaux et européens et clarifie le partage des pouvoirs entre l'UE et les États membres. Pour faciliter la prise de décision dans une Europe élargie, le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil est étendu à de nouveaux domaines. Pour doter l'UE d'une meilleure visibilité mondiale, deux fonctions sont créées. Un président du Conseil européen et un haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.